Bien, bonjour à tous et toutes. Alors, je suis sauvé, mon introduction tient toujours. Je devais commencer par, est-ce qu'il y a des personnes d'origine suisse dans l'Assemblée? Et oui, je sais qu'il y en a au moins une. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, j'apprends quelque chose sur toi, Étienne. Alors du coup, question de quiz, il y en a peut-être d'autres, peut-être en ligne également. Question de quiz, quelle est la devise de la ville de Genève? Pas de réponse? Non? Cherche pas sur Google, Étienne. Post... Post tenebras lux, qui signifie après les ténèbres, la lumière. La ville a choisi cette devise juste après la réforme protestante. Et c'est également cette devise que la Société biblique de Genève, qui nous fournit largement, a choisie. Alors, notez bien qu'il s'agit d'une affirmation. Après les ténèbres vient assurément la lumière. Le texte que je souhaite partager avec vous aujourd'hui illustre parfaitement cette locution et se situe dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, versets 16 à 28. Et je le lirai dans la version second 21. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il dit donc, que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps, nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Pardon. Informatique. en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Nous sommes à un point critique du ministère de Jésus. Il est en train d'annoncer à ses disciples ce qui va se passer dans les heures, dans les jours, dans les semaines à venir. Par cette annonce, il révèle sa nature pleinement divine. Car effectivement, tout ce qu'il annonce là va réellement se produire. Comment ce texte résonne aujourd'hui pour nous, chrétiens ? J'aimerais vous poser la question suivante. Après avoir connu la souffrance de la séparation, les ténèbres de la croix, les apôtres ont connu la lumière de la résurrection. En tant que disciples de Christ, nous, pouvons-nous nous préparer à suivre le même chemin ? Alors pour répondre à cette interrogation, j'aimerais d'abord brièvement rappeler le contexte dans lequel Ces paroles ont été prononcées, puis m'attachées à leur signification profonde, en particulier pour les disciples qui les ont entendues, et enfin voir, dans un dernier temps, leur implication pour nous, chrétiens, en 2021. Donc d'abord, quelques points d'éclaircissement. Notre lecture d'aujourd'hui prend place au sein des tout derniers enseignements de Jésus. Ils sont rapportés dans l'évangile de Jean. Nous sommes au moment du repas de Pessah, la Pâque juive. Il s'agit du moment le plus important de la liturgie juive. Des milliers et des milliers de personnes viennent à Jérusalem pour fêter cet événement. Tous les disciples pensent là être avec leur maître pour célébrer la libération des esclaves par l'intervention de Dieu. Mais là, Jésus leur annonce clairement sa mort. Ce n'est pas la première fois qu'il leur annonce une telle chose. Ça fait même un moment qu'il les prépare à un tel événement. On se souvient par exemple du conflit qu'il a eu avec Pierre lorsque, dans Matthieu 16, 21-23, on lit « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Déjà, Jésus leur annonçait sa mort et sa résurrection. Et pourtant, malgré cette préparation, les disciples restent dans l'incompréhension. Que veut-il nous dire ? Pourquoi ce refus de comprendre ? Pourquoi ce refus d'accepter les paroles de Jésus, en qui ils ont confiance ? Alors, il faut se mettre un peu à leur place. Jésus est le Messie. Ils l'ont compris et accepté. Jésus est l'envoyé de Dieu sur terre. Ça fait des siècles qu'ils attendent sa venue annoncée par les prophètes. Il doit libérer le pays. Il doit prendre la suite de David. Il ne peut pas mourir, et encore moins dans peu de temps. Mais Jésus insiste. Avec patience, à nouveau, il enseigne à ses disciples. « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. » Il leur annonce sa mort. Il leur annonce la croix. Il sait tout de ce qu'il va arriver. Il sait tout du reniement de Pierre. Il sait tout de la trahison de Judas. Mais il ne va pas chercher à infléchir le cours des événements. Il va continuer, comme il l'a toujours fait, à aimer tous ses disciples d'un amour inconditionnel. On peut imaginer pour les apôtres, pour les disciples de Christ, tous les espoirs qu'ils ont pu fonder en lui. Chacun d'entre eux a certainement déjà rêvé toutes les victoires à venir, tous les changements qu'il y allait avoir. Jésus a 33 ans, ça fait que quelques années qu'il a débuté son ministère. Alors quelle souffrance pour eux, quelle déception lorsqu'ils seront au pied de la croix quelques heures plus tard. Quelle souffrance pour Pierre qui va effectivement renier Jésus parce qu'il craint pour sa vie. Quelle souffrance enfin pour Judas qui a trahi Jésus, souffrance telle qu'il ne pourra pas le supporter, le conduisant au suicide. Et puis aussi, la joie du monde, la joie des autorités religieuses qui rêvaient et qui ont enfin réussi à faire périr Jésus. La moquerie des soldats romains qui habillent Jésus en roi pour lui cracher au visage, pour le frapper. Et puis l'indifférence des autorités romaines, de Ponce Pilate en particulier, qui ne comprend pas ce qui est reproché à Jésus, qui se doute de l'injustice, mais qui cède à la volonté populaire. Voilà tout ce que Jésus est en train de leur annoncer. Mais il n'a pas que cette terrible nouvelle. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Jésus leur annonce aussi et surtout sa résurrection. C'est le point central du plan de Dieu pour le salut des hommes. Bien sûr, ils avaient assisté au miracle de Jésus, mais les disciples étaient-ils capables de percevoir toute la portée de ce qu'il était en train de leur annoncer ? Bien sûr, ils avaient vu la fille de Jaïrus ressuscitée, bien sûr, ils avaient vu Lazare ressuscité, mais est-ce que Jésus pouvait se ressusciter lui-même ? Et pourquoi cette nécessité de devoir absolument passer par la mort ? Verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. En associant, vous me reverrez et je vais auprès du Père, il annonce sa résurrection, mais il donne aussi des perspectives de la vie éternelle. Alors après avoir évoqué le contexte des paroles de Jésus, attachons-nous au sens profond de ces paroles et aux conséquences pour les apôtres. Comme nous l'avons vu, ce n'est pas la première fois qu'il leur annonce sa mort et sa résurrection, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Par exemple, on se souvient de la réponse qu'il a faite aux Juifs qui l'interrogent en disant « Qu'est-ce que tu es capable de faire comme miracle ?» Jean 2, 19 « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Mais ce texte-là, d'aujourd'hui, présente une portée particulière. C'est effectivement la dernière fois que Jésus enseigne à ses disciples, mais surtout, ce texte constitue une fondation. Verset 16. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse, car son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de la joie d'avoir mis un enfant au monde. Cette image de la femme qui accouche se retrouve à plusieurs reprises, en particulier dans l'Ancien Testament. On le retrouve dans le livre d'Ésaïe, mais quand l'auteur évoque cette souffrance, c'est dans son esprit en tout cas, puisqu'il ne l'a pas vécu, c'est une des plus terribles souffrances que l'on puisse imaginer. Et puis, c'est aussi une partie de la punition divine qui a été adressée à Ève. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde », lit-on dans Genèse 3,16. Mais là, Jésus utilise cette image pour quelque chose de beaucoup plus positif. Cette parabole est là pour susciter l'espoir. Oui, ses disciples vont connaître la douleur et la tristesse lorsqu'il va mourir. Oui, cette douleur va être terrible. Mais elle ne sera rien, elle sera vite oubliée par la joie de le retrouver. Et cette joie de le retrouver sera à la mesure de la souffrance qu'ils auront éprouvée pour sa perte. Et au-delà de cette image déjà forte de la joie immense qui efface la douleur passée, cette parabole a une portée plus grande encore. Elle annonce une naissance. La naissance d'une nouvelle relation entre Dieu et le croyant. Verset 23, « Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Pour s'adresser à Dieu, les Juifs avaient l'habitude de passer par les prêtres. Depuis Moïse, cette fonction, elle est sacrée. Ce sont les prêtres qui officient au temple. Seuls les prêtres ont accès au sanctuaire. Et quand un Juif a une offrande à faire, il la confie aux prêtres pour intercéder auprès de Dieu. Mais Jésus, en annonçant sa mort et sa résurrection, il annonce en même temps la naissance de cette toute nouvelle relation. Après sa résurrection, chaque croyant pourra s'adresser directement à Dieu. Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Une nouvelle ère va être inaugurée et tous les chrétiens vont devenir prêtres. Par son sacrifice à la croix, par sa victoire sur la mort, Jésus nous a tous rendus acceptable aux yeux de Dieu. Il rachète nos fautes et devient la voie unique par laquelle nous pouvons accéder au Père. Verset 25, « Je vous ai parlé en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Cette nouvelle ère n'implique pas seulement la possibilité de s'adresser directement à Dieu. Jésus annonce également une nouvelle connaissance. Pendant tout son ministère, Jésus s'est adressé à ses disciples en utilisant un grand nombre de paraboles. Mais à quoi ça sert, les paraboles ? Ma femme regarde régulièrement une émission à la télévision sur Netflix qui s'appelle Universe. Ça date de 2013. C'est une série qui fait le point sur nos connaissances de l'univers, du Big Bang jusqu'aux hypothèses de disparition de celui-ci. Alors, toutes les théories sont exposées, les trous de verre, le multivers, la théorie de la relativité d'Einstein. Mais cette série se garde bien de toute position théologique. Et pour cause, les chiffres de distance, de durée, de probabilité de survenue des événements qui sont évoqués dans cette émission donnent le tournis. Ils sont au-delà de toute compréhension humaine. Alors, quand on met en perspective Dieu, le créateur de cet univers et de tout ce qu'on n'en a pas découvert, et l'homme, infime particule au sein de cette création et pourtant qu'il aime profondément, comment peut-on imaginer que nous soyons en capacité d'appréhender l'immensité de la pensée de Dieu. Alors j'ai une autre image pour compléter, beaucoup moins grandiose. On a un lapin chez nous, Caramel pour ceux qui la connaissent. Alors on aime beaucoup notre lapin, on la chouille, on la nourrit, on la caresse, elle a au moins 3 boîtes de friandises différentes, et on tient beaucoup à notre lapin. Mais ça beau être un lapin adulte, ça reste un lapin avec un cerveau de lapin. C'est-à-dire qu'il suffit que vous rentriez dans la pièce un peu vite ou avec un objet un peu encombrant et Caramel va nous faire un démarrage pour se mettre à l'abri sous un meuble tellement elle craint pour sa vie. On a beau lui expliquer que côté question ours ou renard, notre appartement c'est assez calme. Mais elle ne comprend pas, il n'y a rien à faire. Et la seule solution pour expliquer à Caramel, ça serait que je me transforme moi-même en lapin, que je me fasse lapin pour lui expliquer dans sa langue. Mais ce n'est pas possible. Alors Dieu, lui, l'a fait. Alors, il ne s'est pas changé en lapin, ne cherchez pas, vous n'avez pas loupé le verset. Mais Dieu, par la personne de Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, est venu dans notre monde pour nous aider à percevoir la grandeur de la pensée de Dieu. Verset 27. « En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. » Et je retourne vers le Père. Pour faciliter notre compréhension de ce que Dieu avait à offrir, Christ nous a d'abord parlé en parabole. Et dans ce texte, il annonce qu'avec l'inauguration de cette nouvelle ère, les bontés de Dieu deviennent accessibles à l'homme sans intermédiaire. Verset 23, « Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Ce que promet Jésus, c'est la connaissance parfaite du royaume de Dieu dans la vie éternelle. Jésus annonce sa mort et la tristesse de ses disciples. Jésus annonce sa résurrection et la joie infinie de le retrouver. Jésus annonce une nouvelle ère de partage et de communion entre Dieu et les croyants. Et dans un dernier point, il explique comment accéder à cette communion. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. La clé de cette nouvelle relation est donc de prier le Père dans le nom de Jésus. Mais qu'entend Christ quand il parle de prier, de demander en son nom ? Alors, dans une société juive où prononcer le nom de Dieu est un crime, ça pourrait être une manière détournée de parler du nom de Dieu sans le prononcer. Mais cette explication, si elle est juste, me semble un peu courte. Vous connaissez l'expression « se faire un nom ». Derrière le nom, il n'y a pas que le patronyme. Derrière le nom, il y a la réputation du porteur. Il y a l'honneur de cette personne. Il y a les valeurs qu'il porte. Ainsi, ce que Christ enseigne ici, c'est que ses disciples peuvent désormais prier en son nom, et en faisant cela, ils se mettent sous le couvert de son autorité, de sa puissance, de sa grandeur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Non seulement se mettre sous l'autorité du nom de Christ, c'est être rendu acceptable aux yeux du Père, mais c'est également l'assurance d'être entendu, l'assurance d'avoir une réponse de sa part. Christ lance ici un appel. C'est un appel général parce que tous sont appelés à être prêtres. C'est un appel général à une foi confiante. C'est totalement inédit pour des hommes de cette époque. Désormais, le nom de Jésus est l'assurance d'avoir une écoute attentive auprès du Père. Alors, en conclusion de cette partie, les disciples vont connaître la souffrance, la joie et une nouvelle ère de relation avec Dieu par le nom de Christ. Mais pour reprendre ma question du début, nous, pouvons-nous emprunter le même chemin ? en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. » Ces paroles ont été prononcées il y a 2000 ans. Est-ce qu'elles ne sont pas pleinement d'actualité aujourd'hui ? Force est de constater que, où que nous nous retournions, les valeurs de notre monde sont de plus en plus éloignées des valeurs portées dans les enseignements de Dieu. Défendre sa foi, parler de sa foi, si c'est encore facile, possible, dans des pays comme les États-Unis, c'est de plus en plus difficile dans des pays comme le nôtre. Là où, comme je l'ai déjà dit à une autre reprise, là où, sous couvert de laïcité, la liberté d'expression, la frontière entre la liberté d'expression et la persécution est de plus en plus floue et perméable. Et je ne parle même pas des pays où les chrétiens sont d'ores et déjà pourchassés, et ce depuis très longtemps. Lorsque vous regardez les caricatures qui circulent sur les réseaux sociaux, les reportages à la télé, ou même si vous engagez la discussion avec quelqu'un que vous connaissez peu et que vous lui dites que vous croyez en Dieu, que vous êtes chrétien, vous êtes très rapidement catalogué. Le risque, mon frère, ma sœur, c'est que par crainte des préjugés, nous nous taisions, que nous cachions le nom de Jésus-Christ. Profitons au contraire des occasions que Dieu nous donne pour être de véritables ambassadeurs. Parler de ce qu'il est pour nous, parler des valeurs qu'il nous a transmises. Récemment, j'ai accueilli à mon travail un stagiaire. Corentin, 20 ans, est resté auprès de moi pendant 10 semaines. Alors Corentin avait une particularité, il était curieux comme une chouette. Il nous abreuvait de questions. Mon grand-père aurait dit de lui, il était vacciné avec une aiguille à phono. Alors, des questions surtout, des questions sur le boulot, et ça c'était très bien pour son stage, mais aussi dès qu'on prononçait quelque chose, il creusait, il voulait tout savoir. Alors, assez rapidement et très naturellement, j'en suis venu à lui dire que j'étais chrétien. Et lui, assez rapidement derrière, dans la même conversation, m'a demandé ma position sur le mariage pour tous. Oui, tout de suite. Alors, peu importe ce que je lui ai répondu, ce n'est pas l'objet de ce message ici. Mais il s'en est suivi des discussions avec Corentin très, très, très régulières. Et j'ai eu largement l'occasion de lui expliquer quelles étaient mes valeurs, quelle était ma foi et ce qu'était Jésus-Christ pour moi. Alors, on a pu aussi échanger sur nos visions croisées du monde. Certaines de mes réponses l'ont interpellé, vraiment, franchement. D'autres l'ont carrément choqué. Mais peu importe, ces discussions ont eu surtout pour moi la vertu de me poser la question de qu'est-ce qui est essentiel dans ce monde. Et c'est le premier enseignement que je tire de ce texte et que je veux partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est essentiel lorsque l'on veut témoigner dans ce monde? Et moi, revenir à l'essentiel, c'est Matthieu 22, versets 37-39. Ce sont les commandements que Christ nous a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont ceux à quoi nous devons nous raccrocher. Moi le premier. Ces commandements transcendent tous les débats politiques, religieux, éthiques, sociaux, moraux. Ces deux commandements doivent nous préserver de la colère, de l'abattement, du dégoût que l'on peut ressentir face au monde qui nous entoure. Ces deux commandements doivent nous garder de porter un jugement sur nos frères, sur nos sœurs, sur les personnes qui nous entourent, et ce, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Ces deux commandements doivent nous préserver de la nature charnelle que Daniel nous a si bien exposée la semaine dernière. Oui, nous sommes en souffrance dans ce monde qui rejette Christ et qui est tellement éloigné de ce à quoi nous aspirons. Mais gardons nos yeux centrés sur ces deux points essentiels. Aimons notre Dieu de toutes nos forces qui nous a offert la vie éternelle au-delà de ce monde. Et faisons preuve d'amour pour toutes ces créatures qu'il a créées et qu'il aime, qu'ils le connaissent ou pas. Portons dans ce monde notre valeur première, Christ, et témoignons de la grandeur de son nom. Mais Christ ne nous a pas dit de vivre en dehors du monde. Nous sommes dans le monde et aimer notre prochain n'est pas la meilleure manière d'y vivre et d'y témoigner, c'est la seule. Alors vous pourriez me dire, c'est facile d'écrire ça, c'est facile de prononcer ces mots-là devant vous, mais c'est tellement, infiniment plus difficile à faire. Comment y arriver? C'est le deuxième enseignement que l'on peut tirer de ce texte, la prière. Nombre d'entre nous terminent leur prière par une formule du type « dans le nom de Jésus-Christ ». Moi-même, qui fréquente les églises évangéliques depuis 13 ans maintenant, j'ai adopté cette pratique, probablement par mimétisme. Alors c'est en préparant ce message que j'en ai découvert l'origine. Mais que signifie vraiment prier, demander dans le nom de Jésus? Alors, il y a plusieurs significations. Demander dans le nom de Jésus, c'est d'abord faire preuve d'obéissance. Et c'est précisément ce que nous enseigne ce texte. C'est lui-même qui nous demande de faire ainsi. Demander en son nom, c'est aussi demander son aide pour prier. Demander son aide pour trouver la force, pour trouver les mots justes. Demander son aide pour que son esprit puisse nous inspirer dans la prière et nous connecter avec le Père. Demander en son nom, c'est également demander son intervention pour la réalisation de cette prière. C'est demander qu'il intercède pour nous auprès du Père afin que nous soyons entendus. Demander en son nom, enfin, c'est aller puiser à la source, s'appuyer sur son autorité pour être son digne représentant sur terre. Le dernier enseignement que je retire de ce texte, c'est l'espoir. Jésus, dans ce texte, délivre à ses disciples un message d'espoir. Il ne leur a rien caché. Il leur a annoncé sa disparition. Il leur a annoncé sa résurrection. Et pourtant, une fois dans le tombeau, les disciples sont au désespoir. Même lorsque Jésus leur réapparaît, ressuscité, ils sont dans le doute. Post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. Ce message s'adresse tout autant à nous. Comme les disciples auprès du calvaire, nous sommes en proie à la tristesse, au doute. Comme les disciples, nous sommes régulièrement dans la souffrance, en particulier lorsque nous décevons Jésus, lorsque nous péchons. Jésus ne nous a rien caché de ses souffrances, mais il a promis également son retour. Alors oui, nous sommes dans la tristesse, mais lorsqu'il dit « Je vous reverrai » et « Votre cœur se réjouira » et « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera », c'est bel et bien une promesse. La promesse pour ses disciples de le revoir après sa résurrection, la promesse pour eux et pour tous les hommes et les femmes qui croient en lui, de le voir, de le connaître par le Saint-Esprit qui veille en nous le regard de la foi. La promesse de son retour, la joie immense de le rencontrer, d'accéder à une vie éternelle en sa présence. La promesse d'une défaite définitive de la mort et du mal. La promesse, enfin, d'une connaissance pleine et entière de l'amour de Dieu. Alors pour conclure, le monde d'aujourd'hui nous expose à un combat spirituel. Je repose la question, en tant que disciples de Christ, pouvons-nous nous préparer à suivre le même chemin que les apôtres ? Oui, nous le pouvons. Centrons-nous sur ses commandements pour témoigner, prions en son nom et gardons l'espérance. Sachons nous inspirer de la vie de Jésus, de celle de ses disciples, pour nous préparer et pour vivre aujourd'hui notre foi. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre cet épisode, le point culminant de l'accomplissement du plan de Dieu, et notre propre vie. Comme les disciples, nous connaissons Jésus, certes pas personnellement, mais nous connaissons ses enseignements et nous avons foi en lui par l'action du Saint-Esprit. Mais comme ses disciples, nous sommes assaillis par la tentation, par le doute, par la tristesse, par les craintes que nous inspire le monde qui nous entoure. Et nous attendons. L'attente peut paraître longue. Post tenebras lux. Nous savons, nous avons la certitude que l'attente, que la tristesse céderont immanquablement la place à la joie immense, une joie qui n'aura pas de fin, une vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et la seule chose que nous ayons à faire pour accéder à cette joie, c'est nous placer en toutes circonstances sous l'autorité du nom de Christ. À lui soit la gloire. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, mon frère, merci pour le don de ta vie à la croix. Merci pour cette révélation du royaume de Dieu. Merci parce que tu as tout porté, tu nous as rendus acceptables aux yeux de Dieu. Merci pour ton amour inconditionnel et sans limite. Seigneur, je veux en ton nom louer ta grandeur, louer ton nom. Seigneur, je veux me placer sous ton autorité. Je veux me placer sous ta protection. Et Seigneur, donne-nous à chacun d'entre nous le courage, donne-nous les mots justes pour témoigner effectivement du nom de ton nom sacré, Seigneur Jésus. Amen.